suite ton jeu de Radio Insolite, direction la Savoie, la belle Savoie, la Savoie merveilleuse, fantastique. Enfin, je crois que c'est la Savoie, parce que bon, d'après les infos que j'ai, Clémence, elle est savoyarde. Bonjour, Clémence.
Bonjour Alain, je suis savoyarde, mais j'ai bougé mes valises à Lille maintenant.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, j'avais des magnifiques montagnes, mais j'ai préféré le plat. Non, j'ai parti d'abord pour faire des études à Paris et à Bruxelles, et puis je suis tombée amoureuse, et puis je suis tombée d'abord amoureuse de quelqu'un, puis surtout de Lille.
D'accord. Bon, bah écoute, pourquoi pas, c'est pas interdit, hein. Bon, en fait, ça commençait à faire une formation d'acteur au cours Florent, tu te refuses rien. Mais comme c'était pas assez, t'es quand même parti à Bruxelles.
Exactement, je suis allée au complet.
Pourquoi la Belgique? Parce qu'il y a une formation qui était beaucoup plus pointue.
Je voulais faire une école qui s'appelle La Fab, qui est une école de théâtre qui est dirigée sur les mouvements, sur le corporel, et qui je trouve, complète vraiment la formation pour apprendre le jeu et la gestuelle, ce qui est beaucoup, enfin, je trouve qu'il complète une école classique de théâtre.
D'accord. Et alors, tu es en même temps autrice et comédienne. Mais alors, autrice, tu l'as été dès 23 ans.
Oui, tout à fait. J'ai écrit ma première nouvelle à 14 ans qui a été nommée au prix des livres. Et ensuite, à 23 ans, j'ai été publiée pour la première fois.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, tu as eu envie, un matin, tu te réveillais, tu as pris une feuille blanche, un stylo, puis tu t'es mis à écrire.
Ben, j'ai toujours aimé écrire. En fait, quand j'étais petite, j'écrivais pas mal d'histoires. J'ai toujours été plutôt dans la fibre artistique que scientifique et tout le reste. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, un jour jusqu'à pourquoi. J'ai pas trop d'explications, mais j'ai envie d'écrire quelque chose. Mes parents m'ont un peu porté là-dedans, ils m'ont encouragé. Et puis après, en partant d'études théâtrales, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être l'autrice de certaines de mes pièces et j'ai envie d'écrire mes propres histoires.
D'accord. Mais par contre, tu écris que pour toi ou tu as déjà produit d'autres choses?
Moi, j'écris pour les autres. Cet été, j'ai co-écrit une comédie avec Marie Nardon. Mmh. Pour deux hommes, et donc normalement elle aurait dû être jouée cet été, mais le fait est que pour des raisons exigées personnelles aux comédiens, ça a été décalé, donc normalement j'espère que vous pourrez la découvrir l'année prochaine. C'est une comédie qui s'appelle Mon Vieux, et donc j'aime bien écrire aussi pour les autres. J'ai des amis aussi qui me demandent de leur écrire des seuls en scène, donc j'ai pas mal de travail.
C'est bien, ça occupe un tout petit peu.
Oui, c'est clair.
Et puis on est dans une journée un peu spéciale, puisque bon, c'est pas le spectacle dont on va prioritairement parler, mais il y a quand même un spectacle qui démarre ce soir, une comédie Montorgueil, qui s'appelle Charge mentale, sauf qui peut.
Charge mentale, sauf qui peut, une comédie féministe et surtout très 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 drôle, qui a été écrite par Flore Fauchine. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai la chance de pouvoir jouer en alternance sur ce spectacle. Et donc oui, en effet, elle commence ce soir à la comédie Montorgueil à Paris. Moi, j'y jouerai le 3 et 4 octobre, et vraiment foncer découvrir les copines, c'est une pièce vraiment légère en même temps qui nous fait réfléchir et qui est très chouette. Moi, j'étais en tournée il y a à moins d'une semaine avec, donc là, c'est les copines qui prennent le relais, puis je retourne.
Dis donc, alors ça, c'est complètement entre guillemets à l'opposé du spectacle que tu vas présenter à partir du mois de novembre, qui s'appelle Les Enfants du Diable, que tu as déjà fait tourner, mais qui est avec une histoire un peu, ce sont des faits réels un peu chargés quand même.
Ouais, c'est ça. Bah, le chargement d'un petit peu, c'est du café théâtre, et là on passe vraiment à autre chose, puisque Les Enfants du Diable, c'est une pièce plutôt dramatique, historique, et surtout c'est une pièce basée sur des faits réels, puisque cette pièce est écrite pour ma sœur Mirella, dont l'histoire est inspirée de son histoire, de son courage, des horreurs qu'elle a vécues. Et donc j'ai voulu parler d'une tranche de l'histoire qui a été pas mal mise de côté, oubliée en tout cas par ma génération et celle d'en dessous, puisque c'est la page de ces orphelins miroirs qui ont été créés en Roumanie après la dictature de Nicolae Ceaușescu. Et il y a quelques années, il y a eu des procès qui ont été ouverts sur les médecins qui avaient dirigé là-bas. Ça a rouvert des blessures pour ma sœur. Et donc ça, c'était il y a 4 ans, il me semble, et ma sœur Mirella est autiste. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est diagnostiquée après toutes les séquelles qu'elle a eues, traumatisantes et psychologiques suite à ça. Et Mirella m'a dit, voilà, moi, Clémence, je ne peux pas m'exprimer comme toi, je ne peux pas écrire comme toi, et toi, tu peux le faire pour moi. Et je me suis dit que j'avais un devoir de passation, de mémoire à faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire cette pièce.
D'accord. Alors, en plus, c'est réel, puisqu'il y avait toute une base de politique, puisqu'à cette époque-là, la politique nataliste à outrance était vraiment la famille Ceaușescu.
Oui, tout à fait. En fait, c'était dirigé par un couple complètement cinglé, Nicolas et sa femme Elena, et on voulait un pays fort, donc une armée forte, donc un pays peuplé. Et pour ça, ils ont obligé les femmes à avoir un minimum de 5 enfants sous peine d'amende. Sauf que le pays était extrêmement pauvre, et donc ces enfants étaient placés dans des orphelinats qui étaient sous la tutelle de l'État. Et donc pour les moins pires, c'était les cassettes des copies, ce qui restait quand même l'enfer. Et quelque part là-bas, on voulait que les enfants survivent. Alors que les canines, c'était les poubelles humaines, où on se débarrassait des enfants, où on les laissait vivre à eux-mêmes et mourir de tristesse, de famine, dans sa vérité. Et ma sœur était dans cela.
C'est pas compliqué de traiter un sujet qui est très personnel ?
Si. C'est un peu paradoxal, c'est compliqué et simple. Simple parce que quand ça nous touche, on sait exactement où atteindre les sentiments, comment les exprimer, enfin je sais pas, les manier, c'est. Disons qu'on a un accès tellement direct que pour pouvoir en parler, il y a quelque chose d'entre guillemets plus simple et en même temps de tellement difficile parce que il faut rester, faut pas tourner le pathos, il faut rester pudique. Il faut savoir exploiter les bonnes choses pour toucher le public et pas seulement être cathartique. Et c'est ça l'enjeu qui est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de commencer à écrire la pièce. Parce qu'au début, je voulais tellement que ça colle à ma réalité que je bloquais. Et quand à un moment, j'ai compris que pour délivrer cette réalité-là, il fallait que je donne celle aussi des autres, j'ai élargi mon champ de vision sur la pièce en interviewant d'autres personnes et en mixant la réalité de ma sœur à celle d'autres enfants. Et du coup, toute la pièce, enfin tout ce qu'on entend dans la pièce est vrai, mais n'est pas seulement l'histoire de ma sœur. C'est ce que j'explique souvent. Du premier mot au dernier mot de la pièce, tout est arrivé, tout est vrai. Sauf que nos trois protagonistes, les trois personnages principaux, en fait, sont chacun d'entre eux. Nikki est autant Véronica que Mirella, Mirella est autant Véronica que Nikki. En fait, j'ai mélangé dans ces trois personnages leurs trois histoires pour pouvoir parler dans un spectre plus large de l'histoire de plus d'enfants, de l'histoire de tous, en fait. Et c'est là où, moi, ça a été d'autant plus intéressant parce que du coup, au-delà de juste parler de quelque chose qui m'est arrivé, qui me touche, qui arrive à ma sœur, j'ai pu parler plus large. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi le pari de cette pièce, de toucher, entre guillemets, tout le monde.
J'en discutais avec quelqu'un hier qui me disait qu'il a l'impression que c'était une excellente thérapie. C'était quelque chose qui permettait de, bah, d'une part, de faire savoir, de parler d'un peu d'histoire.
Oui. Oui, non, c'est vrai, c'est une pièce. Oui, c'est une pièce qui fait réfléchir, qui travaille la mémoire, qui travaille beaucoup de choses, mais niveau, entre guillemets, thérapie, moi, je ne m'attendais pas à des retombées pareilles sur la pièce. Et en effet, on a eu énormément. De discussions, d'échanges, de choses où on a senti que les gens, il y avait quelque chose qui s'était passé, on a eu en fait des parents adoptants, que ce soit d'enfants humains ou non, on a eu des enfants adoptés, on a eu des enfants battus, on a eu des enfants traumatisés, on a aussi eu tout simplement aussi des histoires de femmes par rapport à la transmission, puisque la pièce n'aborde pas seulement ça, moi j'aime bien mélanger des sujets dans les sujets, hein, donc la pièce elle est aussi vachement tournée sur les relations familiales, sur cette fratrie qui se déchire, mais qui s'aime et qui ne sait pas trop comment se pardonner, se reconstruire, en même temps qui désireuse que de ça. Et là-dedans, Véronica, elle attend un enfant. Et avec son passé et ses incertitudes du futur, elle se demande comment on met au monde un enfant dans un monde pareil, comment on l'élève, est-ce qu'on peut l'aimer, est-ce qu'on peut l'éduquer correctement. Et en fait, ces questions-là, elles ont été aussi vachement relevées. Par des personnes qui nous ont parlé voilà, du fait que au-delà du sujet de la Roumanie, ce sujet-là, c'est quelque chose qui est hyper d'actualité. Et on a eu plein d'échanges avec des gens qui nous disaient, voilà, mais moi aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai des enfants, pas parce que j'en ai pas forcément envie, mais parce que je me demande dans quel monde je mets, qu'est-ce que je transmets. Et c'est vrai que ça soulève beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Et ces échanges-là, ils étaient très précieux pour nous.
Ce qui est un peu surprenant, c'est pas très souvent qu'on a une note pareille, 10 sur 10 sur BillRéduc. Et attention, il y a quand même 45 avis, 10 sur 10. Alors, on pourrait dire, il y a que les gens qui ont apprécié, qui ont mis un commentaire. Enfin, c'est pas très fréquent d'avoir une note pareille. Ça veut dire que ben, les gens, quand ils sont sortis, ils ont passé un moment fort.
Écoutez, jusqu'à maintenant, et on espère que ça continuera comme ça, nous, ce qui a été assez exceptionnel au festival, c'est qu'à chaque fois que quasiment tout le temps, quand le noir tombait, quand la lumière se rallumait pour les saluts, la salle était debout comme un bloc.
Ah, d'accord.
Et on a eu le prix du jury, le prix du public, on a eu les coups de cœur de la presse. La pièce a vraiment été appréciée, portée, et c'est vrai que on s'est bien rendu compte que le public était là. Et c'est vrai qu'on a actuellement quasi que des bons retours. Et j'avoue que moi qui suis toujours un petit peu en train de douter, c'est génial. Et c'est vrai que les commentaires qu'on trouve un peu partout, le public adore. Et c'est d'ailleurs le public qui nous parle depuis le début, parce que quand on a commencé avec ce projet, les programmateurs, les théâtres, etc., c'est tout cela, c'est magnifique, mais est-ce que quelqu'un veut voir ça? Et en fait, dès notre premier festival, on était complet tous les jours. Le deuxième festival, on était complet avant même de commencer le festival. Et là, et ça, c'est grâce au public. Et donc derrière, et ben, tous les pros ont suivi. Et ça, c'est top, on leur a dit oui. Les gens viennent et ils ont dit, on a vu.
Pourquoi ne limiter qu'au lundi et au mardi? Alors, c'est quand même du 24 novembre jusqu'à fin mars. Donc, c'est quand même une sacrée programmation. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, ils auraient pu jouer carrément tous les jours.
Ouais, écoutez, alors ça, c'est pour vraiment des questions logistiques, professionnelles et budgétaires. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on nous avait proposé le créneau qui s'appelle le créneau vaisseau. Et donc, on aurait joué 4 soirs par semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mmh. Et on a fait hésiter, sauf que c'est notre première programmation quotidienne parisienne. Et ceux qui connaissent bien ce milieu savent que Paris n'a rien à voir avec le reste. Mmh. Et on a préféré faire notre lancement de cette façon, que le bouche à oreille se fasse, que le public soit là.
Oui.
Et on ne doute pas que ça va marcher. Du tonnerre exactement comme à Avignon, mais on voulait un lancement certain pour comme ça derrière on se relance, on continue s'il faut, on fait tous les soirs. Mais si vous voulez, aujourd'hui la culture, les budgets qui sont alloués, etc., disons qu'on ne croule pas sur l'heure, et du coup on préfère faire des lancements plus certains pour que les compagnies gardent du budget derrière. Mm-hmm. de faire un lancement frileux et derrière on ne peut plus rien faire.
D'accord, c'est tout à fait réaliste et c'est tout à fait juste. Oui. Ça joue à 19h ou 21h?
Le lundi 19h, le mardi 21h, comme ça tout le monde peut venir.
D'accord, ok, c'est pour ça que j'ai les deux horaires. Ok, il y a un site internet où on peut découvrir tout cela?
Oui, www.compagnielabaronnerie.com.
Oh, quel nom, attention.
Baronnerie 1R2M.
D'accord. Ok. Donc, ça se joue, je rappelle, au Studio Berthoff à partir du 24 novembre et jusqu'au 24 mars, tous les lundis, tous les mardis. Vous avez entendu, lundi 19h, mardi 21h. Et là, vous pourrez peut-être vous faire un grand plaisir. Au moins, vous apprendrez plein de choses et c'est pas inintéressant. Je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour vous faire découvrir tout cela.
Merci à toi.
Bonne préparation en tout cas. Au revoir.
Oui, merci. Au revoir.